La base même, le socle de ce talent, c'était sa personnalité, c'était lui-même. Avant le film parlant, il n'était pas très connu, hors Paris et Marseille. Mais lorsqu'au hasard des routes, nous entrions dans un restaurant à Sens, à Mâcon ou à Montélimar, tous les regards se tournaient vers lui, et je voyais des gens qui appelaient le garçon pour lui demander à voix basse « Qui est-ce ?». De même, sa seule présence emplissait d'un seul coup la scène ou l'écran. Malgré sa masse et son poids, il avait une sensibilité presque féminine qu'il exprimait en scène avec une émouvante pudeur. Toujours naturel, parfois grossier, jamais vulgaire. Sa voix puissante était un orgue dont il jouait en virtuose. Ses chuchotements allaient jusqu'au fond de la salle, ses cris faisaient trembler le lustre, et ses changements de ton imprévus, au milieu d'une scène comique, arrêtaient net la gaieté du public et saisissaient le cœur des spectateurs d'une émotion discrète mais profonde, jusqu'à ce qu'un autre changement de ton fit rejaillir d'interminables éclats de rire. Ces prodigieux moyens d'acteur s'appuyaient sur une science du métier, acquise au musical, dans le sketch, le monologue, le tour de chant, puis dans l'opérette et la comédie légère des boulevards. Il avait le don de l'imitation jusque dans ses mains et son visage. Quand il parlait de quelqu'un qu'il n'aimait pas, il transformait miraculeusement son front, ses yeux, sa bouche, son menton, et devenait lui-même une caricature vivante et reconnaissable de l'absent, dont il prenait alors le regard et la voix. Il eût été un clown de cirque incomparable, ou un Polonius, un Don Diego, un Narcisse, un Bartolo, un Roi Lear. Sur la scène de la comédie française, dans un milieu qui n'était pas le sien, et dans lequel il détonnait, il nous a rendu Molière dans Le Bourgeois Gentilhomme, plus il a pris la fuite sous les bravos, épouvanté par le sérieux et la routine de la maison. En 1946, un accident d'automobile le retint 2 mois en clinique avec une jambe cassée. Il en sortit parfaitement guéri et joyeux. Mais un jour de septembre, il me téléphona. « Je suis encore dans une clinique, mais ce n'est pas grave, viens me voir. » J'accourus. Il était assis dans son lit et s'était fait un turban d'une serviette éponge. On eût dit un gigantesque brahman. Il discutait avec son infirmière et une charmante jeune femme. Elle refusait d'ouvrir une bouteille de whisky que Paul Olivier venait de lui apporter. Il en buvait d'ordinaire fort peu, mais il prétendait ce jour-là que 2 gorgées lui donneraient plus d'assurance pour aller jusqu'à la table chirurgicale. Elle refusait énergiquement. « Pas d'alcool avant une opération. La consigne est formelle. Vous êtes à jeun, un doigt de whisky peut vous enivrer. Vous en boirez demain si vous voulez, mais pas aujourd'hui. » Jules me la montra du doigt et a dit « C'est une mégère, et je plains son mari de tout mon cœur. « Je n'ai pas de mari, dit-elle. Tant mieux, dit Jules, tant mieux pour lui. » Le ton de cette conversation me rassura. Jules me parla de l'opération, une opération banale et bénigne qui ne demanderait que 8 jours de clinique. Puis l'infirmière me dit qu'il était temps de me retirer parce que l'heure des chirurgiens allait sonner. Comme je lui faisais mes adieux, il me dit tout à coup « Embrasse-moi ». Je fus surpris. Il nous arrivait très souvent de ne même pas nous serrer la main et de continuer sans préambule la conversation de la veille. Je l'embrassai. J'allais sortir, il demanda « Où déjeunes-tu ?»« Chez Langer, avec Roger Ferdinand. Après l'opération, je te téléphonerai. »« Si on vous le permet, dit l'infirmière. »« Quoi ?» cria Julie, ici, on ne parle que de permettre ou de défendre. C'est une caserne, c'est un bagne. Ne t'inquiète pas, je te téléphonerai. » À 12h30, on vint m'appeler à table. Je pensais qu'il n'était pas encore éveillé, mais que la serviable infirmière allait me donner de ses nouvelles. C'était une voix inconnue, une voix de femme. Le cas de M. Rému était beaucoup plus grave qu'on ne vous l'a dit. L'opération a duré 2 heures, il ne s'est pas réveillé. Vous voulez dire pas encore? Il y eut un silence tragique, puis la voix murmura « Non, il ne se réveillera plus ».